Bonsoir, bienvenue pour La Relève. Maintenant, ça fait 10 ans que ça dure, vous devez commencer à le savoir. La Relève, c'est le magazine radiophonique de Radio Campus Paris consacré aux nouveaux talents et aux récits originaux pendant le mois de juillet, donc tous les lundis à 18h. Et ce soir, on devrait parler de rois morts et de jeunes filles vivantes. Mon invitée est écrivaine. Bonjour Lucile Nova.
Bonjour.
Merci d'être passée en cette fin de mois de juillet. Dans le tuyau, vous partez jamais en vacances en juillet. Vous êtes une haussienne, comme on dit.
Je suis rentrée pour vous. Oui, je suis prof, vous savez. Donc, en vérité, j'ai 2 mois de vacances bien méritées, je trouve.
Ce ne sont pas
année.
Trop.
Merci de me réinviter.
Mais, oui, on va en parler. Vous êtes venue pour nous parler de votre premier roman qui s'appelle Voir venir, qui est paru on va y arriver, aux éditions du Sous-sol. On vous avait déjà reçu pour un essai passionnant. On mettra le lien vers cette précédente émission sur le site que vous avez publié chez Zone et qui s'appelait De Grandes Dents. Alors, avant de rentrer dans l'histoire de ce premier roman, Voir venir, vous étiez frustré après avoir écrit un essai. Vous aviez quand même envie de vous frotter à la forme de la fiction.
Alors, en vérité, j'avais commencé à travailler ce roman bien longtemps avant d'écrire l'essai. C'est 2 temporalités complètement différentes, en tout cas pour moi. L'écriture de l'essai, c'est... Voilà, j'ai eu cette idée pour De Grandes Dents et c'était pris dans le mouvement, notamment du MeToo inceste. Et il fallait... Voilà, j'avais quelque chose à dire. Je voulais... Et je pense que ça se sent d'ailleurs dans le ton de l'essai, tout balancé d'un coup. Donc ça a été écrit vraiment très rapidement.
C'est quasiment un tract. Vous l'avez écrit comme un manifeste plutôt qu'un tract, pardon.
Ou comme un cours, ou comme un sketch, je ne sais pas bien. Mais voilà, bon, il y avait cette espèce de...
D'urgence,
plutôt positive, hein, quand même, portée par quelque chose d'assez euphorique, presque, comme une espèce de crise maniaque, vous voyez, où là, ça y est, c'est maintenant, j'ai une idée, il faut y aller. Le roman, c'est moins joyeux, c'est plus tortueux.
J'allais dire plus laborieux.
Et plus laborieux, à mon sens, et en même temps... Enfin voilà, donc ça,
plus
ça a été un...
peut-être aussi.
Non, moi j'ai l'impression que ça a été un effort beaucoup plus long.
Mais l'effort peut être joyeux, non?
Mais je vous dis quand même non. Non, c'est beaucoup plus compliqué de se faire confiance, de se dire qu'on va réussir à aller au bout d'un projet. On commence avec des phrases, une ambiance, des esquisses de personnages.
C'est plus ça que l'histoire d'abord.
Ouais. Et l'histoire,
elle vient au fur et à mesure.
Je pense qu'on est assez nombreuses et nombreux dans ce cas chez les personnes qui écrivent des romans à pas avoir très envie d'avoir un plan de départ. Et donc c'est quand même un problème de pas savoir où on va et s'il nous faudra 30 pages ou 600 pour y arriver, quoi.
Alors, j'ai beaucoup lu que ce livre était un conte gothique. Moi, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Bon, on en reparlera après, puisque je suis en train de bousculer l'ordre de mon interview, mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est d'abord un lieu que vous avez voulu raconter? Parce que c'est quand même l'impression qu'on a en vous lisant. Le rabat de la 4e de couverture donne à peu près cet effet-là aussi, puisqu'il parle d'un lieu particulier qui est un pensionnat de jeunes filles. Est-ce que c'était ça qui vous intéressait?
Oui, complètement. C'est vraiment le lieu qui a été le point de départ de l'envie d'écrire.
C'était raconter peut-être... ce lieu-là ou raconter un lieu en général?
Non, c'était essayer
de... dire lequel c'est,
ouais,
quand même.
Je vais vous dire tout de suite. C'était essayer de saisir quelque chose de ce que m'a procuré à moi la prise de connaissance de cet endroit. En fait, le lieu en question, c'est un pensionnat de jeunes filles qui existe vraiment, et encore aujourd'hui, qui s'appelle la Maison d'éducation de la Légion d'honneur. C'est le meilleur lycée public de France, public de façon un peu originale, dirons-nous, puisqu'il est exclusivement réservé aux héritières de personnes ayant été décorées de la fameuse Légion d'honneur. Cette médaille qui récompense un ensemble de services rendus à la nation. Ça peut être elle peut être militaire ou civile. Et donc,
il y a un endroit dans Paris, au sens large, où il y a des jeunes filles qui ont toutes, dans leur ascendance, quelqu'un qui a eu un jour la Légion d'honneur.
C'est ça. Et donc, ça crée une espèce de huis clos extrêmement privilégié, il faut bien le dire, qui est situé, bizarrerie supplémentaire, au cœur de Saint-Denis, ce chef-lieu du département, le 93, le plus pauvre de France métropolitaine. Et par ailleurs, le pensionnat, il jouxte la basilique Saint-Denis, qui est aussi un lieu chargé d'histoire, la nécropole royale où sont enterrés les rois de France, ou du moins ce qu'il en reste. Donc voilà, moi quand je découvre cet endroit, parce qu'en fait...
Mais vous y allez professionnellement, vous découvrez
cette voie ? Non, on m'en parle, je veux dire, j'apprends que cet endroit existe.
En salle des profs.
Ouais, c'est ça, au début de ma carrière de prof, dans une discussion sociale banale. Et je suis très... je pense que je peux dire un peu choquée, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça existe, et ça existe encore, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'étrange logique qui fait, pour dire les choses un peu simplement, qui fait de la Légion d'honneur une espèce d'anoblissement qui permettrait donc aux descendantes des personnes ayant été décorées d'avoir accès à quelque chose d'exclusif. Et donc, cette espèce d'indignation que je ressens, et ben, comme en même temps elle est à l'égard d'un pensionnat de jeunes filles qui est aussi un décor très cinématographique, et en l'occurrence notamment d'un cinéma d'horreur dont je suis absolument férue, je me dis qu'il y a quelque chose à aller explorer là-dedans et à capturer.
C'est ce que vous écrivez. Hein. Vous dites franchement, on serait en droit de s'attendre à ce que, au détour d'un couloir, surgisse un psychopathe masqué. Au moins ça. Il faudrait exploiter ce décor, ces figurantes, poser sa caméra, filmer des kilomètres de cheveux, avant de trouver un prétexte efficace et gore pour décortiquer les filles, en faire sortir le jus rose bonbon. Et peut-être même serait-ce l'une des adolescentes qui tirerait des plis de sa jupe un couteau de cuisine étincelant et effilé pour faire des sashimi de ses camarades légionnaires.
Oui, ça c'est le pensionnat vu par l'un des personnages. C'est un peu c'est composé un peu sous la forme d'un roman choral. On bascule d'un point de vue à l'autre, un peu comme dans un plan séquence aussi au cinéma, pour ceux qui auraient vu Elephant de Gus Van Sant par exemple.
Se passe dans un livre, c'est lui.
Oui, et qui a une histoire bien particulière. Mais ici, donc le passage que vous venez de lire, c'est vu par une enseignante qui est au second plan de cette histoire, mais une enseignante qui arrive naïve et qui hallucine complètement de ce décor.
Alors après, vous avez dû inventer des personnages. Ça, c'était plus difficile à faire, inventer ces 4-5 jeunes filles, les 4 élèves et surtout une surveillante dont vous parlez. Vous avez travaillé leur biographie, vous les avez...
Oui, je dirais pas que c'est difficile, ça c'est un plaisir un peu magique, mais alors je dis magique vraiment sans aucune prétention, parce que à mon sens c'est un peu comme si j'étais en train de jouer à la Barbie et que je me dis elle est un peu comme ça, et puis elle c'est un peu ça son caractère et gnagnagna, donc je me moque un peu de moi-même quand je me vois faire ça, mais oui, j'essaye de créer en tout cas une communauté où en tout cas elle m'arrive presque comme des petits êtres fantomatiques, 4 adolescentes qui sont copines, qui vivent donc dans ce pensionnat, et une surveillante qui elle vient de Saint-Denis, qui est donc la sans médaille au milieu des ados. Qui n'est pas tellement plus vieille qu'elle, en fait. Hein. Elle a un peu plus de la vingtaine. Et elle entretient avec elle un rapport, disons, de franche sympathie. Et voilà. Et en fait, je crois que c'est ça qui est intéressant. Enfin, une fois qu'on connaît ces personnages, on les lance dans la souricière. En l'occurrence, là, en plus, dans un huis clos, c'est...
Ouais, là, elles ne peuvent pas sortir.
C'est
parce
commode.
Qu'elles sont quand même dans un...
Ouais.
Elles sont dans un pensionnat où on ne sort pas normalement.
C'est ça. Et donc là, j'ai l'impression un peu de les lancer là-dedans, et comme avec quelque chose d'un peu pervers peut-être, hein, de la part de la narratrice, mais d'observer ce huis clos comme j'ai parlé de Barbie, donc un peu comme une maison de poupées. ou peut-être comme une espèce de vivarium où l'air est un peu étouffant et on regarde comment se... comment fonctionnent les liens sociaux à l'intérieur de cette école.
Dans plusieurs interviews que j'ai lues de vous, j'ai vu que vous disiez que vous n'auriez pas voulu faire un roman. Il y aurait d'un côté les filles de la Légion et puis de l'autre côté ce qui se passait à l'extérieur. C'était quoi ? Ça aurait été presque trop facile, trop... Parce que vous auriez pu à côté raconter la vie de quatre garçons de Saint-Denis et de ces quatre filles. C'était vraiment, vous trouviez ça... J'ai presque l'impression que vous aviez l'air de dire que c'était obscène de faire ça.
Alors, je...
Vous ne le sentiez peut-être pas juste.
Je ne le sentais pas et ça m'aurait... Oui, ça m'aurait semblé, en tout cas, très maladroit. Obscène, j'en sais rien, mais
non, peut-être qu'il y a une...
Il y a probablement une manière de le faire bien. Mais disons que c'était une difficulté qui se présentait à moi, et en même temps, c'est vraiment ça qui m'a intéressée dans ce travail d'écriture et de recherche. C'est que de recherche, je veux dire formel, poétique, ouais. formelle. C'est que, bien évidemment, je l'ai dit d'emblée, c'est que ce lieu, il m'intéresse d'un point de vue aussi politique. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça dit de la France, un tel espace, un tel système ? Et donc, bien évidemment que ça m'intéresse, peut-être d'autant plus que je suis moi-même enseignante en Seine-Saint-Denis dans un établissement qui n'a pas grand-chose à voir avec ce château de... Je suis à Bondy, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce château scintillant où on élève les filles des champions de la République. Et donc j'ai envie de parler de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis. L'idée de me situer un pied de chaque côté de la frontière et, comme vous disiez, par exemple, d'inventer un contre-récit, un récit en miroir qui se passerait dans le collège de REP ou le lycée de REP du coin. Non, ça allait pas le faire. Ça allait être beaucoup trop caricatural. J'écris pas une œuvre sociologique. J'espère que justement on peut avoir une ambition différente et en fait plus complexe presque en passant par la poésie et le roman.
Ça tombe bien, vous me faites revenir au début. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que par le roman ou par l'essai, on peut dire la même chose sur la réalité du monde ?
Bah en fait, j'ai l'impression...
Avec des moyens différents. Ouais.
En fait, j'ai l'impression, et pardon si c'est un peu plat ou réducteur ce que je vais dire, mais quand on écrit un roman, enfin en tout cas moi, quand j'écris mon roman, je me dis, oh là là, mais on n'a pas le temps, il y a une telle urgence politique là, il faut que... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Inventer mes petites histoires, et comme je disais, voilà, faire mes petits jeux comme si on reproduisait un truc presque enfantin, quoi, du plaisir d'inventer des histoires. Et donc moi-même, je me le reproche, je me dis, là, on n'a pas le temps, il faut écrire des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus... Mais pourtant, je le fais, et en fait... En y réfléchissant, et aussi par ma pratique de lectrice, j'ai une confiance en fait infinie dans la fiction, aussi bien au cinéma qu'en littérature, pour justement saisir des choses que le discours déplié de l'essai, par exemple, ne sait pas capturer. Et plus encore, là par exemple, dans Voir venir... Je passe par, disons, le genre, le fantastique ou quelque chose d'un peu horrifique, une espèce d'hommage aussi au film d'horreur. Pour moi, bah, y a des choses de la réalité sociale ou matérielle qui sont mieux dites par des films de Wes Craven que par la littérature. Des sciences sociales ou académiques.
On ne dirait rien de votre livre si on ne parlait pas de votre écriture. On a dit de Saint-Denis, la formule est redevenue à la mode. Alors moi, j'ai découvert en préparant l'émission que c'était une formule qui datait d'après 45, que Saint-Denis était la ville des rois morts et du peuple vivant. En fait, c'est très très vieux comme formule. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait ça aussi dans votre livre, c'est que c'est à la fois un livre qui écrit avec une langue très classique parfois, et aussi où vous arrivez à écrire une langue très contemporaine, Et la grande force que vous avez, vous, c'est que les deux sont vivantes, la langue classique comme la langue contemporaine. C'était quelque chose que vous vouliez, peut-être que c'est comme ça aussi que vous racontez le paradoxe de ce lieu de mixage, c'est en employant ces deux langues et en les mélangeant.
Oui, merci beaucoup de dire ça. Je crois que ce qui m'intéresse, même si c'est vraiment post-rationalisé dit comme ça, mais ce qui m'intéresse, c'est la voix. C'est l'idée que une bonne histoire, elle se raconte à l'oral, à voix haute ou à voix basse, c'est à voir. Ça vient peut-être aussi de mon métier d'enseignante. Bon. Et donc, que ce soit la voix parfois hurler du conte, de la légende, qui installe quelque chose d'un peu, parfois presque suranné. Enfin, je pense qu'il y a des passages dans bref, je rassure nos auditeurs, mais des passages brefs du roman où on est presque dans le pastiche du 19e-iste, quoi. Et aussi bien que des moments de dialogue. Mais pas seulement, j'espère qu'il y a aussi des moments où on sent que la narratrice, elle aussi, elle est les deux pieds dans le monde contemporain et qu'elle aussi, elle a parfois sa langue qui est percée par des expressions plus actuelles, plus récentes. Et d'ailleurs, voilà, donc c'est cette idée de voix qui pour moi, lie tout ça. Parce que j'ai pas envie qu'on s'ennuie, puis parce que j'ai envie que le texte, il soit vivant, il soit organique.
C'est dur justement à faire cohabiter les deux. Quand on le lit, c'est très naturel justement.
Pour moi c'est naturel. Je me suis pas dit et pour moi ça aurait été un écueil aussi. Et pour le coup c'est un écueil assez commun. Et je me disais pas quand j'écris ma voix de narratrice, faut que je parle bien. Et quand y a des dialogues entre les jeunes, il faut qu'elle parle comme des jeunes. Je n'ai pas créé une espèce de troisième section où il y aurait les jeunes bourgeoises qui parlent d'une certaine manière et les copains de la surveillante Vanessa qu'on aperçoit et qui sont des Dionysiens qui n'ont pas forcément fait des hautes études, etc., se mettraient à parler vraiment comme des jeunes de banlieue ou peu importe, quel que soit le sens de cette expression. Surtout pas. J'espère que c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus poreux. Et pour le coup, de ce point de vue-là, c'est bien le seul point où je me permettrais d'employer ce terme, plus réaliste. Voilà. J'aspire pas à écrire un texte réaliste, mais sur la question des voix, je pense que dans la vraie vie, on ne parle pas dans un registre.
Il y a d'ailleurs ce moment que j'ai vu cité par plusieurs critiques et forcément c'est... Alors pour nous, quand on lit, on se trouve que c'est un tour de force, pour vous c'est peut-être naturel, mais c'est ce moment où vous leur faites raconter entre elles, entre ces quatre jeunes filles, la guerre de Troie, avec un mélange. Et là c'est formidable parce qu'à la fois, si on est un puriste, elles écorchent la langue française, mais elles emploient aussi des mots d'un registre très soutenu. Et vous montrez, alors je ne sais pas si c'est pour une volonté de montrer, c'est qu'en tout cas, le langage c'est quelque chose qui s'invente, et on ne peut pas le réduire à dire il y a un langage jeune, il y a un langage pas jeune. Je ne sais pas si vous l'avez voulu comme ça, ou si là encore ça vous vient assez naturellement.
Je pense que ce n'est pas travaillé, c'est comme ça que ça vient, et d'ailleurs, et je pense que ça vient... Pardon, je n'arrête pas d'y revenir, mais du fait que quand on passe du temps dans une classe avec des collégiens à raconter des histoires et à entendre aussi les histoires qu'eux racontent et à faire des cours qui se présentent quasiment exclusivement sous la forme d'un dialogue, on est sans cesse avec toute cette palette à disposition. Et j'ai oublié ce que je voulais dire après.
C'est pas grave. Est-ce que, quand même, je voudrais revenir sur ça. Est-ce que vous avez retravaillé, par exemple, pour retirer à certains endroits, parce que vous trouviez que c'était trop, peut-être trop alambiqué, ou à l'inverse, trop dans une langue trop relâchée, ou est-ce que vous avez gardé.
S'il y a des gens qui écrivent, qui nous écoutent, ils se reconnaîtront probablement là-dedans. J'ai commencé. Les premiers mois, voire la première année d'écriture de ce roman, qui m'a pris en fait beaucoup de temps, en pensant qu'il fallait écrire comme Victor Hugo. Et je l'aime beaucoup, et voilà. Ou Marguerite Duras. Bon, alors du coup, le Hugo Duras, bon, ça c'était pas satisfaisant. C'est en lisant beaucoup, beaucoup mes contemporains. Et aussi en me faisant confiance que je me suis aperçue que j'écrivais des choses qui me plaisaient plus et que je m'ennuyais moins, quand en fait j'écrivais presque comme je parle, avec mon complexe de « ah, je parle pas bien, je trouve pas mes mots », etc. Ben finalement, en littérature, ça a donné un style.
Alors, est-ce que vous chantez bien? Je ne sais pas, non. Mais Jeannette, elle chante très bien.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con.
Découvrir que je maîtrise à peu près aussi bien l'espagnol que l'anglais. Jeannette, ¿por qué te vas?
Salle de bain, 21h20. Dans la salle de bain, il y a foule. La pièce est aquatique et floue. Les corps frais des filles entrent et sortent des douches, se sèchent, serrent les serviettes autour de leur poitrine, sans effort remontent une culotte le long de leurs jambes, traitent l'acné sur leurs joues par de conséquentes couches d'acide salicylique. Tant qu'elles n'ont pas enfilé les chemises de nuit, on peut voir leur scarification. Qui sur les poignets, qui sur les épaules, qui à l'arrière des cuisses ou pas très loin de l'aine, c'est comme ça que la peine se gère par ici. Il ne faut pas s'étonner, ça ne date pas d'hier, ça n'est pas rare. C'est vrai que c'est dangereux, mais ça soulage, voilà, au moins tu sais pourquoi tu pleures. Les gens ont cette idée des adolescentes comparant leur rondeur au ventre plat des top modèles. Mais ce qu'elles font en vérité, quand elles ont un magazine féminin sous la main, c'est ajouter des rangées de griffures bien serrées, comme autant de petits coups de rasoir, au creux du bras des mannequins de lingerie. Victoria's Secret, t'as capté. Les voix flottent, montent ou descendent comme des bulles de cristal minuscules et mouillées, rebondissent sur le carrelage, glissent dans la travée qui charrie vers un siphon commun, la mousse épaisse des shampoings chimiques, les filets rouges du sang des règles, les écailles abîmées des vernis. Des cris et des rires tremblent sur l'écume iridescente du dentifrice au fond d'un lavabo. On a fait tomber un bijou et personne n'ose y enfoncer la main. Les filles se succèdent devant le trou, aussi déterminées que s'il s'agissait de soulever Excalibur, mais sitôt qu'elles glissent le bout des doigts dans la bonde, elles les ressortent en pouffant de peur. Vous vous souvenez du petit qui s'était fait bouffer à Disney World ?
Alors, Lucille Nova, c'est un extrait de votre livre, Voir venir, hein, vous venez de lire. Je rappelle qu'il est apparu aux éditions du Sous-sol. Moi, j'aime beaucoup cet extrait parce qu'il est très matériel, il est très... Enfin, on a pu donner peut-être l'impression qu'on était dans un livre très politique. Enfin, là aussi, c'est politique, on va peut-être en parler. Mais c'est aussi très incarné, c'est un livre de chair. Est-ce que ce que vous vouliez, c'est écrire un livre sur l'adolescence au féminin ? Il y a toujours dans tous les contes, on a beaucoup parlé de contes à ce sujet de votre livre, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y a toute une dimension de contes aussi, bien sûr. Les jeunes filles sont souvent les proies. Est-ce que vous vouliez vous inscrire dans cette tradition-là ?
Oui, en tout cas, ce qui m'intéressait, alors les proies, je sais pas, mais en tout cas,
Barbe Bleue, vous, enfin,
oui,
c'est
oui,
un extrait de Barbe
oui,
Bleue,
bien sûr, voir venir. Oui, bien sûr. Mais par exemple, voilà, dans l'extrait qu'on vient d'entendre,
elles sont vivantes.
Elles se font, oui, et elles sont leurs propres bourreaux. Bon, c'est à voir, ce serait à développer, mais en tout cas, oui, j'avais vraiment très envie d'explorer les abysses de l'adolescence. Alors, dans cet extrait-là, c'est vraiment... Ouais, leurs corps sont marqués, il y a quelque chose qui est vraiment pas très gay. C'est pas toujours le cas, j'ai l'impression. Et c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était cette espèce de duplicité. Peut-être qu'il faudrait trouver le mot pour dire plus que double, triple, quadruple. C'est-à-dire entre le visage qu'on offre à sa famille ou à ses profs et la réalité de ses désirs, de ses rêves, de ses cauchemars, etc. Et bon, bah, là, ça devient assez explicite dans ce passage-là, le fait que c'est aussi une façon de brosser le portrait d'une génération. Et pour le coup, ces filles qui peuvent avoir l'air un peu hors sol, hors du temps, dans leur forteresse, bah, en fait, c'est des jeunes filles qui, à cet égard, en tout cas, ressemble beaucoup, malheureusement, à toute une génération actuelle qui va plus mal encore que des générations d'adolescents ou d'adolescentes, peut-être plus précisément, par le passé. Alors, elles ne sont pas forcément aux prises avec ça, mais là, voilà, il y a cette question politique actuelle de l'hydre Parcoursup. Le futur très, très, très anxiogène et la destruction des services publics et notamment de l'hôpital et de la psychiatrie qui font que le mal-être des jeunes augmente et ne peut plus être accueilli nulle part, quoi. Donc j'avais envie d'essayer de dessiner ça aussi.
Ouais, parce que attention, c'est pas du tout un livre sociologique ni
non.
Je tiens à dire, c'est vraiment. J'avais choisi cet extrait parce qu'on voit bien la langue qui est poétique, qui est travaillée, tout ce jeu sur la matérie, enfin, encore une fois sur les humeurs, sur le matériel du corps, qui est vraiment très très beau. C'est aussi une histoire qui raconte un monde en apparence parfait, mais qui est travaillé de tensions toutes les parts. Il y a peut-être les tensions politiques dont on parlait au début entre cette ville et ce pensionnat privilégié et ces jeunes filles qui offrent un qui sont peut-être parfaites dans leurs petites jupes. Alors, je ne sais pas si elles sont encore des jupes plissées bleu marine.
Absolument.
Si, c'est comme ça que je les imaginais. Elles sont
en
uniforme.
Et on fait la révérence quand on croise la surintendante.
Et qui sont traversées de pulsions, de forces très contradictoires.
Oui, oui, complètement. En fait, ce dont j'avais envie, et j'ai l'impression que le genre permet, quand je dis genre, donc encore une fois, hein, c'est le fantastique, l'étrange, l'horreur, ce que Mark Fisher appellerait le bizarre et l'omineux, c'est que cette question de l'héritage, par exemple, et donc en l'occurrence très concrètement, de l'héritage de la médaille, des symboles français, etc., par exemple ça... Ça peut passer si on met ça au prisme de l'horreur, par exemple, ça devient, l'héritage devient une espèce de malédiction. Voyez. Et du coup, il me semble que on n'est plus dans un récit déprimant, atrocement sombre qui foutrait le bourdon. C'est, j'ai l'impression qu'au contraire, ça permet de, par la forme, de saisir, de chiffrer des choses qui autrement sont un peu nouées comme sous forme d'une espèce de colère politique dont on ne sait pas bien quoi faire. Bon, là, j'ai l'impression que c'est ça que permet la fiction aussi.
Alors, je vois le temps qui tourne. Je voulais vous proposer un petit jeu littéraire, évidemment. C'est vous proposer de choisir entre deux auteurs. Alors, entre Marie Shelley et George Sand, vous choisissez qui ?
Marie Shelley.
Vous pouvez dire pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de choisir, sinon vous pouvez dire ce que vous aimez chez l'une et chez l'autre. Faites
non,
comme vous voulez.
Marie Shelley, qui apparaît à un moment du roman, autrice de Frankenstein, on aime trop son histoire, on aime trop l'idée qu'elle ait écrit ce livre si jeune, avant même d'avoir 20 ans. Et qu'est-ce que c'est que cette espèce de jeune femme qui enfante un monstre Moi, j'adore. Je trouve ça génial.
C'est marrant que vous dites ça, parce que moi, j'ai une phrase que j'ai notée dans votre livre. Il y a un moment, il y a Yas qui, je crois, dit à Vanessa, tu n'étais pas un monstre, tu étais un enfant.
Ouais.
Et là, vous dites enfanter un monstre. Et ouais. Vous mettez souvent les deux ensemble.
Oui, la blague, c'est que j'ai fait mon mémoire de Master 1 sur les monstres chez Hugo et mon mémoire de Master 2 sur les enfants chez Duras et Pérec. Et en fait, je crois que déjà dans De Grandes Dents, voilà, c'est deux thèmes qui ne m'ont pas quitté et je pense qu'ils sont très proches.
Alors, vous venez de citer une des autrices de ma deuxième question. Marguerite Duras, Annie Arnaud, qui sont souvent citées par les autrices aujourd'hui, les jeunes autrices qu'on a pu recevoir.
J'aime beaucoup les deux, mais Marguerite Duras, elle m'a vraiment... Je me suis auto-biberonnée à ses textes.
Sa poésie.
Je l'aime vraiment profondément, et même en tant que personne. Enfin, il y a vraiment quelque chose, je la trouve fascinante. J'aime pas forcément tout ce qu'elle a écrit en plus, mais...
Un titre ?
La pluie d'été, qui est son dernier, c'est magnifique, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, ça le fait trop chier d'aller à l'école, et elle raconte ça trop bien, et elle raconte trop bien la famille qui vit à Vitry avec plein de frères et sœurs, et comment, je sais pas, cette maison est merveilleuse.
Alors, vous parlez de ce titre, j'ai eu la chance de voir une adaptation au théâtre, et j'ai été halluciné de découvrir qu'elle l'avait écrit à sa fin de sa vie, tellement c'est un livre plein de jeunesse, d'enfance. C'est incroyable qu'une femme de peut-être 70, voire 75 ans ait pu écrire un texte pareil.
Ouais, la langue est magnifique. J'avais assisté, en master, un prof qui s'appelait Xavier Alazet, qui est un spécialiste de Marguerite Duras, en amphi. Donc, vous voyez, on est très, très, très nombreux. En général, la concentration est quand même un peu limitée. S'est mis à lire un extrait, et notamment donc, d'un dialogue entre l'enseignant qui explique qu'on est obligé d'aller à l'école et les parents et le petit Ernesto qui ne veut pas y aller. Et on est tous... Je sais pas, on s'est tous allongés sur nos tables pour écouter cette histoire. On voulait pas qu'il s'arrête de lire et c'était voilà.
Allez, une dernière. J'arrive jamais à le dire. Joyce Carol Oates ou Laura Kosciuszko ?
Laura Kosciuszko, que je recommande très chaleureusement.
Un mot pour en parler ?
C'est un modèle en littérature contemporaine. Vraiment,
on va dire que c'est une autrice américaine, états-unienne,
qui parle beaucoup. Enfin, qui parle beaucoup dans ses romans.
Des jeunes filles,
parfois des mères. C'est assez intéressant de voir que d'un livre à l'autre, on va se placer plutôt du point de vue de la fille, plutôt du point de vue de la mère. Souvent les deux, mais l'empathie va peser plus d'un côté que de l'autre selon le livre. Esprit d'hiver, Un oiseau blanc dans le blizzard. Pour en citer deux, c'est vraiment génial. Et La couronne verte aussi, qui est vraiment très très bien. Et elle a une maîtrise du fantastique et elle est géniale parce qu'en fait, d'un roman à l'autre, elle a un dénouement fantastique ou un dénouement réaliste. Ça n'est jamais prédestiné et on se fait avoir à tous les coups. Une fois, on se dit, là, c'est sûr, c'est un fantôme. Et en fait, c'est un meurtre. Et le coup d'après, c'est l'inverse. Enfin, voilà. Elle est trop forte. Elle est vraiment géniale.
Vous en avez fini avec les contes ?
Ah ouais, j'espère. Je ne sais pas pourquoi ça m'habite comme ça me hante. les contes au sens de Perrault, Grimm, Andersen. Ouais, je pense que là on va faire une petite pause. en revanche, l'idée d'une bonne histoire qui peut se raconter à l'oral et qui parle à des jeunes personnes, ça j'espère que je ne vais faire que m'améliorer.
Vous travaillez déjà sur le suivant ?
J'y songe et je triche un peu, j'écris des textes courts pour m'échauffer.
Je suis sûr que c'est des très belles tricheries. Merci beaucoup, Lucile Nova.
Merci à vous.
Je redonne le titre de votre livre, Voir venir, c'est aux éditions du Sous-sol et c'est à lire. Merci encore d'être venu aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était La Relève. Elle était préparée, présentée par Christophe. Elle était réalisée par Pablo, qui est lui-même un conte. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait d'émission à 19h, peut-être, je ne sais pas. Donc, vous écoutez, de toute façon, Radio Campus Paris, c'est la meilleure radio de France, je crois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Bonne soirée.